Bienvenue sur Ils l'ont fait, le nouveau podcast de Digiformag. Je m'appelle Pascal et chaque mois, j'ouvre notre micro à un maker du monde de la formation professionnelle. Il ou elle nous dévoilera l'une de ses réussites en 20 minutes chrono. Une belle manière de vous informer, mais surtout de vous inspirer. Bonne écoute!
Là, c'est bon, on y est. Bienvenue Jean-Baptiste. Donc, bienvenue dans les locaux de Digiformat. Donc, comme on est voisins lyonnais, tu as pu te déplacer et venir jusqu'à moi. Donc, c'est super sympa. Tu es le 7e invité du podcast. Alors, je t'ai invité parce qu'on est tous les deux membres de EdTech Lyon et que tu as effectivement un projet qui est assez intéressant, qui m'a interpellée. Et avant que tu nous en parles, la première question qu'on pose à chaque fois, c'est effectivement, dis-nous ce que tu as réussi ces dernières années.
Bien, bonjour, merci Pascal. Ce que j'ai réussi ces dernières années, c'est à développer la pédagogie active dans les organismes de formation, en particulier dans les écoles, par la simulation et la mise en pratique.
Alors, explique-nous, parce que c'est peut-être pas très clair pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'est la simulation? Enfin, tu appelles ça un simulateur pédagogique. Mmh. Est-ce que tu peux nous le décrire vraiment en deux phrases?
Alors, en deux phrases, toujours l'exercice. Effectivement, en fait, l'idée, c'est de travailler sur les compétences managériales et entrepreneuriales en se disant, voilà, je vais prendre une métaphore très simple. Un peintre qui apprend à faire de la peinture, on lui donne un rouleau de peinture, de la peinture, il peint et on regarde et il apprend en faisant, en analysant ses erreurs. Dans les domaines des compétences managériales et entrepreneuriales, jusqu'à présent, on avait surtout un PowerPoint, on m'explique des choses, et puis j'essaie de les retenir et de les mettre en application. Ce qu'on a voulu apporter par la simulation, c'est un environnement digital dans lequel l'apprenant va avoir un contexte, prend des décisions, en fonction de ces décisions, obtient des résultats, et en fonction de ces résultats, essaie de les comprendre, les analyser, et va consommer les contenus pédagogiques, solliciter son formateur pour avoir des débriefings personnalisés par rapport à ce qu'il a observé de sa mise en pratique virtuelle.
Donc, c'est très différent d'un module e-learning qui est un peu descendant. Là, l'apprenant, il rentre directement dans le concret.
Tout à fait.
Et là, le type de formation que tu as pu donc, créer, tu peux nous en dire un peu plus?
Alors oui, tout à fait. C'est effectivement très différent de l'e-learning quand il est très séquencé et très descendant. Et d'ailleurs, on n'associe pas notre méthode, ce n'est pas soit en ligne, soit en présentiel. Le déploiement peut se faire comme on veut, c'est juste une modalité finalement. Okay. Et l'idée justement, c'est un peu de déséquencer les choses. Il y a quand même une trame d'étape en étape parce qu'il faut quand même cadrer l'apprenant dans son apprentissage. Mais je prends un exemple sur, on va prendre par exemple le marketing digital qui parlera peut-être à beaucoup de personnes. Quelqu'un qui aujourd'hui souhaite se former au marketing digital peut, via nos parcours, prendre la tête d'un site e-commerce virtuel.
Ouais.
Il ne voit pas forcément ce site, on lui explique certains paramètres et il va allouer des budgets, du temps, des euros sur des canaux en SEA, en SEO, en emailing. Et en fonction de cette allocation, il va obtenir des résultats qu'il va analyser comme s'il était dans Google Analytics finalement. Donc ça va lui permettre dans un temps relativement court, 2 jours, 3 jours de formation, de modéliser des choses qui se passeraient sur un temps long s'il le faisait dans la réalité.
D'accord.
Beaucoup plus long dans la réalité, beaucoup moins facile d'analyser avec un formateur derrière lui.
Alors, ce qu'on disait en préparant le podcast, c'est qu'effectivement, tu n'es pas OF, donc CIADO, ta structure, tu nous diras quand c'est que tu l'as créée, quel a été un peu ton parcours avant ça, mais en revanche, tu travailles avec des écoles, avec des OF, et tu es en fait un peu un prestataire sous-traitant, enfin, je ne sais pas comment tu te positionnes aujourd'hui quand tu te présentes, mais...
Alors souvent, nous on dit qu'on est un organisme de formation au service des organismes de formation. C'est-à-dire qu'on développe la culture des organismes de formation. Et pour être très pragmatique, aujourd'hui, on a une certification Calliope, on a suivi toutes ces règles qui impactent aujourd'hui le monde de la formation. On raisonne compétences, France compétences, tout ce qu'on peut imaginer quand on est un OF, on essaie de se l'appliquer pour se dire finalement de quoi ont besoin nos clients. Mais effectivement, in fine, ce que l'on produit, c'est un service alors qui se base sur des logiciels, mais aussi sur toute l'ingénierie de mise en œuvre, les contenus, le déploiement, pour d'autres organismes de formation, que ce soit en formation initiale, les écoles, ou en formation continue.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à créer CIADO et qu'est-ce que tu faisais avant ça?
Eh bien, alors avant ça, moi j'étais dans le marketing digital, justement, d'où l'exemple, c'est un exemple au hasard. Mais il se trouve que justement, pendant mes dernières années de formation en école, j'ai eu l'occasion d'avoir un cours à l'époque en gestion d'entreprise autour d'une simulation, d'un jeu d'entreprise, on les appelle parfois comme ça. Et j'avais trouvé vraiment l'approche très intéressante entre finalement des cours que j'avais eus en PowerPoint descendant très séquencé, très voilà, et quelque chose où finalement je vivais une expérience et je me posais de nouvelles questions. Je me suis dit, c'est intéressant. Et puis j'ai commencé ma carrière dans le marketing digital, ce que j'avais prévu de faire au départ. Et puis le hasard des choses, je rencontre un ami d'école, de cette même école dont je parlais, un soir, et puis on se dit, bah tiens, on aimerait bien monter une entreprise tous les deux. Ouais, ok, super, qu'est-ce qu'on sait faire? Bon, on sait faire de la formation, parce que tous les deux, on faisait aussi de la formation en parallèle de nos activités en tant que formateur.
Tu avais déjà une appétence pour quand même.
Voilà, il y avait déjà quand même quelque chose, ouais, tout à fait. Et puis on se dit, bah tiens, si on montait une entreprise de formation, et là, toute la question, c'est qu'est-ce que peut être une entreprise de formation pour se différencier? Est-ce qu'on est des formateurs côte à côte ou est-ce qu'on cherche à avoir un projet entrepreneurial commun? Et donc, on s'est rappelé de ce moment où on avait vécu cette expérience de simulation. On s'est dit, bah voilà, ce qu'on veut pouvoir apporter, c'est finalement l'apprentissage par la pratique dans les domaines managériaux et entrepreneuriaux sur des modules de formation.
Et comment vous avez vendu votre premier module? Enfin, comment tu t'y es pris du démarrage à aujourd'hui pour que bah, ça soit aujourd'hui une boîte qui fonctionne bien? Tu me disais que tu as beaucoup de clients, écoles, organismes de formation aussi. Et puis, il y a des centaines d'apprenants qui utilisent tes modules chaque année. Des milliers, non, peut-être pas des milliers.
Aujourd'hui, on forme à peu près 30 000 apprenants par an. Donc, du coup, c'est des milliers. Du coup, ça compte comme des milliers. Et pour le coup, on ambitionne l'idée, on serait ravis que chaque apprenant qui passe à un moment donné sur des compétences, quand je dis managériel, c'est on gère des ressources à partir du moment, donc ça, c'est pas lié à un niveau d'études, mais c'est plutôt lié à un poste, une fonction. On serait ravis que tout le monde puisse un jour passer sur l'un de nos modules. Et comment s'y est pris au départ? Finalement, il se trouve que les écoles commençaient à avoir un peu cette appétence pour ce type d'approche dans des contextes très particuliers qui, souvent on appelle, je parlais de business game tout à l'heure, très souvent c'est un contexte début d'année, un peu incentive pour faire des choses en équipe, mais autour d'une thématique business. Donc il y avait ces demandes, donc on a essayé de comprendre comment les combler, ce qui existait sur le marché, ce qui n'existait pas, la base de l'entrepreneuriat, je dirais, de trouver sa position. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de cas d'usage qui peuvent être couverts via la mise en pratique, qui vont bien plus loin que la partie événementielle de business game.
Mais tu as quand même commencé par cette partie un peu plus simple et compréhensible et connue.
C'est ça. Okay. En fait, finalement, c'est ça. C'est comme c'est ce qui était demandé, ça permet quand même d'avoir un échange avec un client et puis au fur et à mesure de se dire finalement de créer une relation de confiance et d'aller sur de nouveaux usages et on évoquait tout à l'heure le distanciel, le présentiel, l'e-learning, etc. Comme je disais, pour nous c'est une modalité, mais ça permet par exemple aujourd'hui de répondre à nos clients avec du blended learning qui a du sens, c'est-à-dire que l'idée c'est de, pendant qu'il y a une phase avec un formateur, il y a le sens d'avoir le formateur, et quand il n'y a plus le formateur, il y a le simulateur qui reprend pour l'engagement de l'apprenant, qui permet de générer quelque chose d'actif pour l'apprenant. Okay. Donc dans toutes les phases autonomes, ça permet de pousser du blended learning de qualité.
Et vous avez mis combien, là ça fait combien d'années que vous avez créé Siado?
7 ans, donc 2015.
7 ans, donc chaque année, même je pense plus régulièrement, vous avez poussé le concept et vous l'avez amélioré.
Ouais.
Tu me disais aussi comment tu voyais le rôle du formateur dans tout ça? Et que finalement, ce n'est pas tant aux OF de changer, mais avant tout aux formateurs. Tu bosses beaucoup avec des écoles, donc il y a encore, je pense, encore plus d'importance à ce que ça évolue de leur côté. Comment tu vois les choses, du coup?
C'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, les organismes de formation, que ce soit les écoles ou en formation continue, ont quand même des problématiques assez similaires. Parce que les écoles font beaucoup de formation continue via l'alternance, l'apprentissage. Donc, les problématiques reviennent très souvent et les questions de comment on digitalise, comment on est justement plus actif, comment on fait participer l'apprenant, elle se pose énormément. Mais beaucoup de ces réponses portent sur le formateur, puisqu'in fine, c'est lui qui est en face des apprenants. Et il y a toujours, ben, j'allais dire, malheureusement, la simplicité de dire j'ai tout le programme, c'est ça. Donc, si je fais un PowerPoint qui couvre tous les points avec des bullet points, j'ai fait mon job, j'ai couvert le programme.
C'est facile, quoi.
Ouais. C'est facile à comprendre pour toutes les parties prenantes. Et je parle des apprenants aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, OK, on a parlé de tous les sujets, donc je suis censé les savoir. Tout l'enjeu pour nous, et c'est pour ça aussi qu'on a développé une grosse part de services, où on accompagne les organismes de formation dans la mise en place de nos solutions, on accompagne les formateurs dans la mise en place de nos solutions, pour que chaque partie prenante puisse avoir la bonne posture face à l'apprenant. Et finalement, cette posture, pour la résumer en une phrase, comme tu disais tout à l'heure, c'est de dire le formateur n'est plus le sachant en face de l'apprenant, mais il est le consultant de la situation virtuelle qui va se passer autour du simulateur.
Et eux, ça, ils l'ont depuis 7 ans, tu as senti une évolution, c'est plus simple maintenant, ils l'acceptent ou comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, j'ai senti une évolution chez les formateurs avec qui on est partenaire et avec qui on a créé une relation de confiance, qui ont compris finalement tout l'intérêt qu'il y avait à déployer de cette manière-là. Et je ne vais pas le cacher que ce n'est pas le cas de 100% des formateurs qu'on a connus. Certains sont bloqués par ce type de méthode parce que justement, ça les fait basculer d'un paradigme de sachant à un paradigme de stimulateur de questionnement pour les apprenants. Et c'est très, très différent. Mais oui, effectivement, on a travaillé beaucoup sur comment former les formateurs à cette nouvelle approche, quelle posture ils pouvaient avoir. Ce qui parfois, et ça, c'est là où je commence à parler de réussite tout à l'heure, au bout de 7 ans, je me dis, on a amené plus que nos produits, c'est qu'on a des formateurs qui travaillent avec nos solutions, mais qui du coup ont changé de posture aussi sur des formations qu'ils avaient qui ne sont pas faites avec nos solutions, on va dire plus classiques, mais qui sont rentrés dans cette posture de finalement je suis là pour stimuler l'apprenant, l'orienter, plus que pour lui pousser énormément de contenu et à la fin dire on est tous OK, vous avez tous le contenu.
Et tu aurais une anecdote un peu significative aussi sur un ou des apprenants qui seraient passés par ton produit et qui t'auraient fait des retours ou qui auraient eu un apprentissage, une révélation pendant leur apprentissage ou...
on a la chance, en fait, c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que je disais on fonctionne comme un organisme de formation. C'est qu'en fait, dès le début, on a mis en place des systèmes d'enquête de satisfaction et des choses comme ça qui sont faits par l'organisme, évidemment, mais qui sont aussi faits par nous dès la fin du module. Parce qu'on souhaitait pouvoir adapter les choses. Donc, on a effectivement une montagne de retours très intéressants. Et souvent, ce qui me touche le plus, et ce pourquoi je me dis, OK, c'est aussi pour ça que je me lève le matin, c'est quand on a un apprenant qui arrive sur un module pour lequel il part théoriquement en se disant, non, mais ça, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, j'y connais rien, je veux rien y connaître. Alors là, on peut citer des exemples comme la gestion d'entreprise. Et quand on rentre sur des sujets-là, comme ça, par exemple, en école d'ingénieur, en général, on n'a pas en face de nous des gens qui disent « je suis là pour ça ». Mais finalement, le fait de le faire comme ça, par la mise en pratique, par l'expérience, par l'apprentissage, l'essai-erreur, les choses très actives, on a énormément de témoignages de personnes qui nous disent « mais en fait, on a tout compris, on voit comment ça fonctionne, puisqu'on a pu expérimenter, et c'était passionnant ». Et donc, ça a vraiment changé leur posture sur des thématiques. Enfin, je veux dire, sans toutes les thématiques qu'on traite, on a toujours ce type de profil.
Mais ça ne t'empêche pas quand même, en parallèle, que l'apprenant, il ait sa documentation, parce que certains apprenants aussi, ils aiment bien avoir beaucoup de contenu écrit. Oui. Donc, tu as les deux en parallèle et chacun est satisfait.
Tout à fait.
Pas de problème, quoi.
En fait, tout à fait. On parlait tout à l'heure, juste avant, en préparant le podcast, je dis, notre posture, en fait, elle n'est pas celle forcément d'un éditeur de logiciel. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui est quand même le cœur de la méthode, les simulateurs. Mais à chaque déploiement, on a à côté un parcours sur une LMS dans lequel il va y avoir une structuration de contenu. C'est-à-dire que le rôle du formateur, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est aussi la curation du contenu, sélectionner les bons contenus pour l'apprenant. Quand même, c'est quand même nécessaire. Donc, on les met à disposition. Après, toute la question, c'est comment est-ce qu'on les diffuse, ces contenus? Et le parti pris qu'on a eu, c'est de dire qu'on les met à disposition sur cette plateforme, c'est assez séquencé pour ne pas perdre l'apprenant, mais finalement, on ne va pas toujours zoomer avec la même personne sur le même contenu. si un apprenant, je prends la création d'entreprise ou la gestion d'entreprise, a une problématique sur la notion de rentabilité, on va le renvoyer vers le contenu sur la rentabilité. Si au même moment un autre a une problématique sur comment je définis mon prix de vente, on va le renvoyer sur le contenu de la définition du prix de vente. Ce qui fait qu'il y a une personnalisation aussi qui peut se mettre en place, et peut-être que la séquence d'après, l'apprenant qui était sur la renta aurait une problématique prix de vente, l'apprenant qui était sur le prix de vente aurait une problématique renta. Mais voilà, on n'oublie pas le fait que le contenu doit être là, quand même.
Et alors, certains OEF aiment beaucoup découvrir des nouveaux outils. Est-ce que tu peux quand même nous partager aujourd'hui avec ton équipe quel genre d'outils vous utilisez pour créer ces modules, ces simulateurs? Ou c'est vraiment du sur-mesure et c'est top secret?
Alors, j'allais dire, c'est pas top secret dans la mesure où c'est du sur-mesure. Donc, en fait, voilà, on a fait le choix de développer un framework qui nous permet de développer des nouveaux simulateurs plus facilement. Mais pour, là où je peux livrer un secret, on va dire, industriel, mais qui n'est pas un secret, c'est que le très gros du travail, c'est sur ce qu'on appelle la routine de calcul. La routine de calcul, c'est le lien entre, quand je prends une décision, qu'est-ce qui se passe en termes de résultats. La grosse différence avec, je pense que ta question, elle réfère peut-être à des outils qu'on connaît qui permettent de faire, je pense à Storyline, qui permettent de faire
des
discussionnels, des scénarios. Ouais. Ou sur ces scénarios, ça va être si tu réponds A, tu vas à la question 3, etc. En fait, là, les simulateurs, les simulations pédagogiques, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose de plus holistique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas si je réponds 1, je vais à la question 3. C'est parce que j'ai mis ça et ça ou tel autre truc que j'ai tel type de résultat qui se génère. Donc, il y a ce modèle mathématique, en fait, qui est vraiment le cœur de la mécanique. Et ça, en fait, ça se construit avec les ingénieurs logiciels et les ingénieurs pédagogiques et les experts métiers.
Et tu arrives à faire travailler ces trois publics, ces trois personnes ensemble.
C'est
ton défi, ça, c'est ton rôle.
Exactement, et c'est notre expertise à développer autour de ça. Un expert métier parle de son métier, l'ingénieur pédagogique le traduit pour que ça puisse être compréhensible par des apprenants, et l'ingénieur logiciel le traduit en fonction mathématique. En gros, c'est un peu le...
Ok, ça marche. On avait évoqué aussi le fait de faire un peu de prospective. Là, il nous reste encore 5 petites minutes. Comme ça fait maintenant presque 10 ans que tu es dans le secteur, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision du secteur là actuellement, et comment tu vois les prochaines années dans la formation en France?
Bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, je pense que ça sera une surprise pour personne. Il y a énormément de mutations dans le secteur en ce moment sur les modalités de formation professionnelle, comment ça peut se passer. Et puis, la période qui vient de passer a aussi amené une belle place au digital et au distanciel. Et en fait, il y a quand même une fracture qui se place en ce moment entre ceux qui sont des fervents défenseurs de la présence coûte que coûte et ceux qui sont des fervents défenseurs de la distance coûte que coûte. Il y a quelque chose entre les deux à trouver, sachant que distance ne veut pas forcément dire autonomie, parce qu'on peut être à distance avec quelqu'un. Et souvent, il y a aussi la confusion. Et j'allais dire, j'ai enfoncé une porte ouverte. Pour moi, l'avenir, il se compose d'un équilibre entre tout ça. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est surtout quelle est la place du formateur dans tout ça. De bien identifier finalement quelle est la valeur ajoutée du formateur, et il y en a. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur de « il n'y a plus de formateurs ». Je ne suis pas un fervent défenseur non plus de « une bonne formation de 3 jours, c'est une formation, il y a 3 jours un formateur ». D'où les formats blended, justement, où je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, en se disant au moment où il y a le formateur, il doit être capable d'analyser l'avancement de l'apprenant sur une partie de sa formation et de débriefer spécifiquement avec lui sur ses points. Et c'est là toute la valeur du formateur. C'est plus dans le « je prépare tout en amont », je fais en école, je fais des corrections, ou je fais la police des fois, en formation continue pour en avoir fait.
Ouais.
On l'a fait aussi parfois avec des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Voilà.
Il faut faire signer
les feuilles, etc. Et voilà le but, et je pense que c'est aussi pour vous, c'est le côté de Digiforma, un des objectifs, c'est-à-dire en fait la valeur, elle n'est pas dans tout l'aspect organisationnel, elle est dans l'échange, dans la relation qu'on peut créer. C'est un peu la même logique de notre côté. Les outils permettent de générer des prétextes d'échange et de relations. Voilà un peu pour le futur, ce que j'espère, j'allais dire, dans l'évolution.
Et comme tu traites aussi avec beaucoup d'écoles et beaucoup d'OF, tu les vois aussi évoluer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ils ont bien compris tous les enjeux et qu'ils vont dans le bon sens? Ou est-ce que le marché va encore se développer ou au contraire se rétracter un petit peu?
Alors sur la taille du marché, c'est assez compliqué à dire parce qu'effectivement, l'arrivée notamment du CPF, du mode de financement CPF, a ouvert une porte très différente à beaucoup d'OF qui n'étaient pas encore sur le marché. Donc, en termes de taille, c'est compliqué de l'estimer. Globalement, moi, ce que je pense, c'est que la formation va toujours en croissance. En fait, c'est probablement l'un des seuls secteurs dans lequel il y aura toujours des choses à faire puisqu'on devra toujours se former. Puisque de base, un changement implique une formation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... en termes d'évolution du marché, il n'y a pas trop de sujets sur est-ce qu'il y aura encore de la formation dans 50 ans. Il y en a forcément. Par contre, ce qui est compliqué dans tout changement aussi, c'est quel est le rythme des acteurs. Et entre l'intention des acteurs et ce qui est fait, bah, il faut forcément plusieurs années, voire dizaines d'années parfois. Et c'est ce qu'on observe aussi avec nos clients. On essaie vraiment de les aider à aller dans cette dynamique. Mais voilà, entre on va digitaliser et on digitalise et on a réussi à digitaliser, il y a quand même...
Oui, après, c'est vrai que ce qu'on voit quand même, c'est qu'en France, on se débrouille quand même. On avait du retard, mais qu'on a rattrapé. Et il y a un vrai écosystème quand même avec de la réflexion, avec de la recherche, avec des gens passionnés qui, en tout cas, ont envie que ça continue à évoluer. Donc, on n'est quand même pas si mal placé. Et puis, bon, on verra effectivement dans quelques années ce que ça donnera.
Je suis d'accord. En termes d'acteurs, en termes de fournisseurs de solutions, ouais. Et on fait tous les deux partie de ouais. la tech. Et donc, forcément, on a une vision là-dessus. En termes de fournisseurs de solutions, il y a énormément d'inventivité, de créativité, de solutions pragmatiques qui existent. C'est souvent de l'autre côté, du côté de la demande, où en fait, il y a des besoins qui sont exprimés.
Oui.
Mais parfois, entre l'intention de l'expression du besoin et la réalité de mise en œuvre, en fait, la formation, on est toujours sur des multi-parties prenantes où il y a l'organisme de formation, le formateur et l'apprenant, globalement.
Ouais, il faut que les trois soient la même longueur d'onde. Exactement. Ça met un peu de temps, c'est normal. Pour qu'on te connaisse un petit peu mieux aussi, Jean-Baptiste, on pose toujours deux questions sur la fin. Du coup, je te l'ai dit, c'est la surprise de la fin du podcast.
Pas de souci.
Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Si tu devais, toi, être formateur, tu le saurais sur quel domaine? Et si tu devais suivre une formation, là, avec ton CPF, peut-être, ouais, ça serait laquelle?
L'avantage, si je devais être formateur, c'est que je le suis encore. Je reste pour rester en contact. Donc, moi j'apprécie particulièrement le domaine du marketing digital parce que j'en viens. Mais j'allais dire, ce qui me plaît aussi beaucoup, et là, c'est aussi grâce à nos méthodes, c'est que j'aime beaucoup aller sur des formations, sur des domaines où je ne suis pas forcément expert, mais sur lesquels la simulation va me permettre d'apporter de l'expertise quand même aux apprenants. Donc, ça peut être, par exemple, je prends un exemple sur le domaine des ressources humaines. J'ai fait des formations avec des apprenants de très bonne qualité. Alors, je ne viens pas des ressources humaines.
Mais oui, pas du tout. Ouais.
Mais du coup, les éléments permettent...
Tu ne t'es pas senti illégitime et tu l'as fait.
Voilà, parce qu'en fait, finalement, les contenus qu'on met à disposition, les débriefings, donnent la légitimité. Moi, je suis le facilitateur qui aide la personne à se poser les bonnes questions dans son analyse managériale et à trouver les réponses dans le corpus de contenus pertinents que je lui ai mis à disposition. Okay. Donc voilà, c'est pour... Toutes les formations m'intéressent dans cette approche-là. Et quelle formation j'aimerais, moi, recevoir? Je crois de manière très pragmatique autour du growth hacking, parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est très marketing, c'est très dev, c'est un peu à la lisière de tout ce qui me plaît. Je lis beaucoup de choses, plein de contenu dessus.
Il y a pas mal d'OF qui se sont créés dans cette thématique aussi, en 100% digital. Il y a plein de choses qui sont testées. Donc,
voilà.
Écoute, quand tu auras plus de formations qui seront estampillées CPF en 2022, là, il y en a certaines qui ont été un peu dégagées.
Ah oui, mais bon, il reste encore d'autres manières.
Tout à fait. Il n'y a pas que CPF.
Et une bonne formation peut être aussi financée par soi-même, par l'entreprise. Enfin, ouais. C'est vrai. Faut pas l'oublier.
Ça marche. Et bien, merci pour tout, Jean-Baptiste.
Merci à toi.
À très vite.
Merci.